Monsieur Sen, histoire de la leçon biblique 1, Gène 1, 3. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Rill de Brent. Le docteur David Mathewson a enseigné le Nouveau Testament et le grec au Gordon College pendant 8 ans avant de revenir à l'automne 2011 au Denver Seminary. Avant de se lancer dans le monde universitaire, il a été impliqué dans le ministère pastoral dans le Montana pendant 6 ans et demi et a enseigné plusieurs années au Oak Hills Christian College de Bemidji, Minnesota. Dave a obtenu son doctorat de l'Université d'Aberdeen en Écosse.
Essay these a at Publi Parl Universite de Sheffield intitulé A New Heaven and a New Earth, The Meaning and Function of the Old Testament in Revelation 21.1-22.
21.1-22.5, ET plus Resement, Verbal Aspect in the Book of Revelation, Publi and 2010 Parej Brill. Dave nous presentera le scénario de la Bible au il retracera les cinq themes majeurs suivants, de la Genèse à l'Apocalypse. Ils sont le peuple de Dieu, l'Alliance, le Temple, la Royauté et la Terre au la Création.
Voici le Dr Dave Mathewson avec la première conférence, commençant le scénario de la Bible dans Genèse 1 à 3. D'accord. Ce que je veux faire dans cette série de conférences, c'est parcourir ce que j'ai intitulé le scénario de la Bible. Et cela signifie que même si la Bible est composée d'une diversité de livres, historiquement et littérairement, en ce qui concerne le genre littéraire des livres, bien que la Bible soit composée d'une diversité de types de livres, en même temps, la diversité sous-jacente est, à mon avis, une histoire unifiée ou un récit unifié qui atteste de l'action rédemptrice de Dieu envers son peuple au cours de l'histoire. En fait, cette histoire, telle que nous la verrons se dérouler et se développer au fil des pages de l'Ancien et du Nouveau Testament, présente toutes les caractéristiques des histoires qui nous sont familières. Il a une intrigue typique. Par exemple, nous examinerons le cadre de l'histoire, ce à quoi nous consacrerons la majeure partie de cette première leçon. Nous examinerons le décor, qui sont les personnages principaux et quels sont les thèmes et mouvements dominants de l'histoire. Et puis le décor ne fait que préparer le terrain pour un conflit. La plupart des bonnes histoires comportent un conflit ou une crise qui émerge dans l'histoire elle-même et qui doit être résolue. Et l'histoire biblique n'est pas différente. Nous examinerons la crise qui est précipitée dans l'histoire, le récit ou le scénario biblique, et nous verrons comment cette histoire est résolue, comment la crise ou le conflit commence à se dénouer et trouve sa résolution principalement dans le Nouveau Testament à la lumière de l'épanouissement en Christ, mais aussi en son peuple. Et donc, ce que je voudrais faire d'abord, c'est peut-être simplement dire quelque chose sur ce que cette série de conférences n'est pas. Cette série de conférences n'est pas une étude de la Bible dans son ensemble. Ainsi, il y a de grandes sections de l'Ancien et du Nouveau Testament, des livres entiers que je sauterai parce qu'il ne s'agit pas d'une étude du contenu principal, de la structure, des thèmes et du contexte de chaque livre majeur. Je retrace simplement l'histoire, et nous passerons du temps à examiner des textes plus importants trouvés dans l'Ancien Testament et comment ils contribuent à l'histoire, mais il ne s'agit pas d'une étude de l'ensemble de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Dans cette série de conférences, je ne vais pas non plus répondre à un certain nombre de questions qui pourraient vous intéresser, par exemple sur la Genèse et que nous examinerons en examinant le contexte d'aujourd'hui. Dans le premier chapitre de la Genèse, je ne répondrai pas et je ne suis peut-être pas équipé ou qualifié pour répondre à des questions telles que, où Caïn et Abel ont-ils trouvé leur femme? Où le cosmos a-t-il été créé en 7 jours ou âges littéraux? Je ne vais pas répondre à ces questions. Encore une fois, je vais me concentrer principalement sur les thèmes théologiques ou sur le scénario théologique tel qu'il se ferait un chemin à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est donc un peu vers cela que nous nous dirigeons. Encore une fois, je passerai du temps à examiner des textes représentatifs de l'Ancien et du Nouveau Testament, et nous passerons un peu de temps sur Genèse 1 à 3, qui prépare en quelque sorte le terrain et constitue le cadre de l'histoire. Alors, regardons cela maintenant. Le point de départ ou le cadre est les chapitres 1 à 3 de la Genèse, dont le chapitre 1, qui dans un sens fournit le cadre général ou le résumé du reste de la section, est, au début, que Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide, et l'obscurité couvrait la face de l'abîme. Ce que cela suggère à propos du contexte, c'est que Genèse 1 à 3 commence par l'existence de Dieu, qui est le créateur souverain de toute chose qui existe. Il est le souverain souverain de sa création, et c'est dans ce récit de l'activité créatrice de Dieu que se trouvent tous les éléments de l'histoire. Tous les thèmes dominants qui se frayeront un chemin à travers le reste de la Bible dans le cadre du scénario biblique sont trouvés. et je veux simplement aborder ces thèmes dominants. Le premier, et je ne vais pas nécessairement les présenter dans l'ordre, et aussi parfois il est très difficile de séparer ou de bifurquer entre certains de ces thèmes, car ils sont intégralement liés dans le cadre du scénario. Alors parfois, j'aborde un thème et je parle également de certains autres. Mais le premier thème est le thème du peuple de Dieu. Dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, en tant que créateur, créateur souverain de son univers, Dieu crée un peuple avec lequel il entrera en relation. Ainsi, Adam et Ève ne sont pas seulement censés être les premiers êtres humains, mais ils sont le tout début, ou le premier peuple de Dieu, le premier peuple avec lequel Dieu entrera dans une relation d'alliance. Et ce terme alliance soulève un autre thème, mais Adam et Ève doivent être considérés comme le premier peuple de Dieu avec lequel Dieu, en tant que souverain de la création, va maintenant créer et établir une relation d'alliance. En fait, le mandat d'Adam et Ève, ou leur fonction première dans ce récit et dans la création sur laquelle Dieu est le souverain, est stipulé dans un texte comme le chapitre 1 de la Genèse et les versets entre 26 et 27. Où, au point culminant de sa création, travaillez, dit Dieu, puis Dieu dit, faisons les êtres humains, ou l'humanité, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur tous les animaux sauvages de la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Dieu a donc créé l'humanité à son image. À l'image de Dieu, il les a créés, mâle et femelle, il les a créés. L'idée derrière l'image, j'en suis convaincu, bien qu'il y ait eu une variété de suggestions, culturellement ou théologiquement et fonctionnellement ou ontologiquement, sur ce que l'image pourrait impliquer, à tout le moins, je pense que l'idée d'image suggère qu'Adam et Ève doivent fonctionner comme les représentants de Dieu. En tant que personnes créées à l'image de Dieu, ils doivent représenter Dieu dans la création. Et cela se fait principalement par leur domination sur toute la création. Alors rappelez-vous que Dieu est le souverain de la création et qu'il crée désormais les êtres humains à son image pour en faire ses représentants. Ils doivent représenter le règne de Dieu sur sa création. Ils doivent répandre la royauté de Dieu et sa gloire dans toute la création en tant que ses représentants. Je suppose que c'est principalement ce que cela signifie lorsqu'il est dit qu'Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu. Ils sont ses représentants pour répandre son règne et sa gloire dans toute la création. Ceci introduit le prochain thème dominant, à savoir qu'il est lié, comme nous venons de le dire, à la notion d'image de Dieu. Autrement dit, Adam et Ève, tels que créés à l'image de Dieu, doivent principalement fonctionner comme vice-régents de Dieu dans sa création. Encore une fois, ils doivent représenter le règne de Dieu sur toute la création. Ils doivent établir et répandre le règne de Dieu et sa gloire dans tout l'univers créé. Ce sont les vice-régents de Dieu. Et en tant que vice-régent de Dieu, c'est probablement aussi ainsi que nous devons comprendre le mandat qui leur a été confié. Je viens de lire les versets entre 26 et 27 de Genèse 1. Mais le verset 28, en d'autres termes, je pense que ce que cela suggère, et je remarque que le mandat d'être fécondé de se multiplier, est une fois de plus lié à l'idée de domination ou de domination sur toute la création. En tant que représentant de Dieu. Ce que je pense que Dieu dit, c'est que la façon dont ils doivent remplir leur mandat d'être les porteurs de l'image de Dieu et de représenter le règne de Dieu sur la création et de produire une progéniture porteuse d'image qui remplira donc la terre et, par ce moyen, établira et répandra le règne de Dieu. Et gloire dans toute la création. Encore une fois, en mettant cela ensemble, Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu en tant que représentants du règne de Dieu. Dieu est le souverain de la création, mais il a créé Adam et Ève à son image pour représenter son règne sur toute la création, et eux aussi doivent produire une progéniture porteuse d'image en étant féconde, en se multipliant et en remplissant la terre. Et c'est à travers d'autres descendants porteurs d'image que le règne de Dieu et sa gloire finiront par se répandre dans toute la création. Maintenant, cela nous amène à un autre thème, celui de l'alliance. Encore une fois, cela s'applique aux gens, mais bien que le mot « alliance » ne soit pas mentionné dans les chapitres 1 et 2 de Genèse, tous les éléments d'une alliance sont là. Autrement dit, Dieu est décrit comme un suzerain, un dirigeant sur toute la création, et maintenant il va créer et élire un peuple avec lequel il bénira et entrera en relation, et cette alliance inclura également la bénédiction et la malédiction. Dieu les bénira, et remarquera au verset 28 du chapitre 1, que Dieu les a bénis et leur a dit, « Soyez fécondes, multipliez-vous ». Ainsi, la création est un lieu de bénédiction pour le peuple de Dieu, mais nous verrons plus tard qu'il existe également des malédictions qui s'accompliront s'ils refusent de respecter leur part de l'alliance. Le cœur principal de l'Alliance est la formule « Je serai leur Dieu et vous serez mon peuple » que vous retrouvez répétée tout au long de l'Ancien Testament. Encore une fois, la formule elle-même n'est pas ici, le terme alliance n'est pas ici, mais il est clair que Dieu, en tant que souverain suzerain de la création, a maintenant l'intention d'entrer dans une relation d'alliance avec son peuple en créant un peuple et en le bénissant s'il obéit à son côté du stipulation de l'alliance, et la stipulation se trouve dans le commandement que Dieu leur a donné au chapitre 2 selon lequel ils ne doivent pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et encore une fois, je ne suis pas intéressé à ce stade à expliquer ce que cela pourrait être, mais simplement à soulever la question de ceci, c'est la stipulation que s'ils doivent remplir leur mandat d'être fécondes, de se multiplier et de représenter le règne de Dieu sur toute la création, dans le cadre de cette relation d'alliance, ils obéiront à Dieu en ne touchant pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. À l'inverse, désobéir à ce commandement entraînera une malédiction, un peu comme le thème de la bénédiction et de la malédiction que l'on retrouve plus tard dans l'Ancien Testament avec l'alliance mosaïque. Ainsi, Dieu établit une relation d'alliance, il sera le Dieu d'Adam et Ève, son peuple nouvellement créé, et ils seront son peuple, et ils rempliront leur mandat, et ils doivent respecter leur part de l'alliance, et si s'ils le font, Dieu les bénira. S'ils désobéissent, Dieu les maudira et les expulsera du jardin, du pays qu'il leur a donné. Cela nous amène au thème suivant, celui de la terre. Genèse 1 et 2, et ce récit plutôt détaillé des sept jours de la création, encore une fois, je ne suis pas intéressé par la façon dont nous les comprenons, qu'il s'agisse d'une journée littérale de 24 heures ou d'une période plus longue, ce n'est pas mon point de vue. Maintenant, le problème est de savoir ce que cela apporte théologiquement au cadre et au début de l'histoire. Ce qui, à mon avis, se passe dans les chapitres 1 et 2 n'est pas seulement l'origine de la terre, même si c'est le cas, il parle des débuts de la terre et de la création, mais cela n'est pas vraiment proche d'une explication scientifique de comment la terre, l'origine de la terre, et ce récit n'exclut certainement pas du tout les explications scientifiques. Mais ce qui se passe, plus important que cela, c'est qu'il ne s'agit pas de l'origine de la terre, mais de la création par Dieu d'une terre ou d'un environnement adapté à son peuple. Dieu crée un environnement habitable par son peuple et un environnement dans lequel il peut élire résidence et demeurer avec son peuple. Ainsi, le pays des chapitres 1 et 2 est un lieu de bénédiction, un lieu de fécondité, dont la création de Dieu, son humanité, son nouveau peuple, Adam et Ève, peuvent à nouveau en profiter s'ils respectent leur part de l'alliance. Dans le cas contraire, ils seront expulsés de ce territoire. Donc, la terre, ce qui se passe dans les chapitres 1 et 2, c'est la terre que Dieu fournit comme un cadeau gracieux à son peuple, à Adam et Ève. C'est un lieu de bénédiction où Dieu demeurera et résidera avec son peuple. Maintenant, en lien avec le thème de la terre et de la création, et en fait, je veux que vous prêtiez attention au chapitre 1 et au verset 1. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Nous verrons plus tard dans une des conférences où ce concept revient et est important. Mais en lien avec ce thème de la création d'une terre, c'est-à-dire produire une terre comme lieu de bénédiction et de don gracieux au peuple, un environnement propice à la vie de son peuple et à la demeure de Dieu au milieu d'eux. Est-ce que remarquez la mention dans les chapitres 1 et 2, surtout la mention au chapitre 2 d'un jardin? Ainsi, au chapitre 2, versets 8 et 9, nous en lirons davantage plus tard, mais cela commence par « Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Le Seigneur Dieu a fait pousser du sol tous les arbres agréables à voir et bons à manger. L'arbre de vie se trouve également au milieu du jardin et elle. Arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il ait dit plus tard à Adam et Ève, dans le cadre de la stipulation de l'Alliance, qu'il ne leur ait pas permis de toucher. Mais ce que je veux dire à propos du jardin, c'est avant tout ce qui se passe ici, et je dois cette observation au professeur de l'Ancien Testament John Walton et à quelques autres également, mais ce qui se passe ici, je pense, c'est le jardin de l'Éden et des pins, et à certains égards, le reste de la création, mais surtout le jardin d'Éden, j'en suis convaincu, est dépeint comme un espace sacré. Le jardin d'Éden est le lieu où Dieu habitera avec son peuple, Adam et Ève, et le rôle d'Adam et Ève est de le garder et de le conserver. Remarquez le chapitre 2 et le verset 15. Il est dit, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Maintenant, cette phrase, « le cultiver et le conserver, j'en suis convaincu », ne décrit pas tant Adam et Ève comme les premiers jardiniers ou les premiers paysagistes de la première création, mais plutôt comme leur seul rôle est de garder l'espace sacré. Leur rôle est similaire à celui des prêtres plus tard dans le temple, de sorte qu'Adam et Ève, en un sens, fonctionnent comme les premiers prêtres du jardin d'Éden. Maintenant, la littérature juive ultérieure, en particulier ce que nous verrons plus tard dans l'Ancien Testament, je pense, indique clairement que le temple de l'Ancien Testament, était essentiellement censé être un jardin d'Éden miniature parce que c'est là que Dieu a d'abord habité. Ce fut le premier espace sacré où Dieu habitait avec son peuple. Mais l'Ancien Testament fait beaucoup de littérature juive, en particulier une partie de la littérature apocalyptique, dépeint le jardin d'Éden comme un temple et Adam comme le premier prêtre qui a exercé ses fonctions dans le temple. Par exemple, un livre intitulé Troisième Inak décrit l'Éden comme un lieu où l'éclat de la gloire de la Shekhinah de Dieu brillait d'un bout à l'autre du jardin, et il existe d'autres références. Il est donc clair que le jardin d'Éden doit être considéré comme un espace sacré où Dieu habitera avec son peuple comme il l'a fait dans le temple. Et Adam et Ève sont là pour le garder, et le garder, non pas comme les premiers paysagistes, mais comme, en un sens, les premiers prêtres qui doivent garder cet espace sacré, et prendre soin de cet espace sacré où Dieu habite. Avec son peuple. Au début, nous y reviendrons plus tard dans une autre conférence lorsque nous parlerons plus spécifiquement du temple, mais juste au début, remarquez un certain nombre de caractéristiques, d'autres caractéristiques qui relient clairement cela au temple, c'est même en remontant au chapitre 1 et 2, la mention des luminaires et des lumières, rappelle la lumière produite par le chandelier à l'intérieur du temple. Le chandelier lui-même qui se trouvait dans le temple de l'Ancien Testament rappelle probablement l'arbre. Le chandelier était censé ressembler à l'arbre, probablement l'arbre de vie qui existait dans le jardin d'Éden. Il est intéressant de noter qu'une autre observation que je dois encore une fois à John Walton est que le fait même que Dieu se repose le septième jour n'est pas seulement un signe de la recréation de Dieu, ou évidemment pas un signe du fait qu'il était épuisé et nécessaire de s'arrêter de cette activité rigoureuse de création, mais même la notion de Dieu au repos semble résonner avec l'imagerie du temple. Plus tard dans l'Ancien Testament, à plusieurs endroits, dans les Chroniques, au chapitre 66 d'Isaïe, il est fait mention du temple comme lieu de repos de Dieu, comme lieu de repos de la présence de Dieu. La présence de Dieu s'est installée dans le temple lui-même. Ainsi, lorsque Dieu se repose à la fin de sa création, cela signifie que cet espace est désormais sacré. C'est le temple de Dieu dans lequel il repose ou réside désormais au milieu de son peuple. Et encore une fois, nous le verrons lorsque nous reviendrons plus tard sur le thème du temple. Maintenant, géographiquement, permettez-moi juste de faire un commentaire géographique sur ce qui se passe dans les chapitres 1, 2 et 3, en particulier avec ce récit du jardin d'Éden. Remarquez comment commence le chapitre 8, et le Seigneur Dieu a planté un jardin en Éden, à l'est. Et la question est, géographiquement, comment pouvons-nous envisager cela ? Le jardin d'Éden est-il coextensif avec les chapitres 1 et 2, de sorte que le jardin d'Éden englobe toute la création? L'Éden, et peut-être le jardin qui s'y trouve, est-il un lieu distinct au sein de la création? Le type de cosmologie ou même de géographie décrit dans Genèse 1 à 3 est un peu difficile. Mais peut-être, et je dois cette observation à Gregory Bill, suggère-t-il que le jardin d'Éden est peut-être un lieu au sein de la création, le lieu où demeure la présence de Dieu? Et la tâche principale d'Adam et Ève en tant que porteurs de l'image de Dieu et représentants de sa gloire de ruine, et en produisant une progéniture porteuse d'image, qui doivent également répandre le règne et la gloire de Dieu à travers la création, et que le mandat principal d'Adam et Ève est alors d'étendre l'Éden pour finalement englober la terre entière et le monde entier, de sorte qu'Éden, le jardin d'Éden, devienne finalement coextensif à l'intégralité de la création. Le décor est donc planté. Le décor est désormais en place. L'homme et la femme sont créés en tant que peuple de Dieu et sont créés pour entrer dans une relation d'alliance avec Dieu. Dieu leur a fait le don gracieux de la terre qu'il a créée pour eux, et en tant que porteurs et représentants de son image, ils doivent représenter le règne et la royauté du souverain, du suzerain, du souverain souverain sur toute la création. Ils doivent représenter et répandre son règne et sa gloire dans toute la création. Et ce faisant, ils doivent être fécondes et remplir la terre, probablement d'autres descendants porteurs d'image. Et ils doivent prendre soin et garder l'espace sacré que Dieu leur a donné. Et le point culminant de tout cela est que Dieu s'installe désormais et vit avec son peuple dans la création qu'il lui a si gracieusement donnée. Maintenant, Genèse 3 soulève ensuite le conflit ou la complication qui, en un sens, constitue la principale division dans le reste de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous pourriez en fait, au chapitre 3, après le chapitre 3, établir une division principale entre Genèse 1 à 3 et le reste de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le reste de l'Ancien et du Nouveau Testament sera la résolution de la complication qui apparaît dans le chapitre 3 de Genèse. Ainsi, la complication du chapitre 3 est que le serpent tente Adam et Ève de pécher, et il le fait en les amenant à violer le stipulation de l'alliance, la relation d'alliance avec Dieu. On a dit à Adam et Ève qu'ils ne devaient pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Satan les a tentés de le faire. Ainsi maintenant, le péché entre dans la création de Dieu, et le péché contrecarrait désormais l'intention originelle de Dieu selon laquelle l'humanité serait les porteuses de l'image de Dieu, reflèterait son règne, répandrait son règne et sa gloire dans toute la création, avec Dieu habitant au milieu d'eux. Maintenant, le péché entre en scène et contrecarrait cette intention, de sorte que maintenant, chose intéressante, Adam et Ève sont exilés du jardin d'Éden. Et j'utilise ce terme exil intentionnellement, et vous comprendrez pourquoi au fil de l'histoire. Vous verrez pourquoi j'utilise ce terme. Mais Adam et Ève sont exilés du jardin d'Éden. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 3, nous lisons également que non seulement ils sont expulsés du jardin, mais qu'au verset 24, il est dit, je vais revenir en arrière et lire le verset 23 du chapitre 3, Genèse 3. Par conséquent, le Seigneur Dieu il l'envoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il chassa l'homme, et à l'est du jardin d'Éden, il plaça les chérubins et une épée flamboyante et tournante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi, vous obtenez cette image d'Adam et Ève expulsés ou exilés du pays, le lieu de bénédiction que Dieu leur avait donné, où ils devaient fonctionner comme des représentants à l'image de Dieu, pour répandre la gloire et le règne de Dieu dans toute la création. Au lieu de cela, maintenant, à cause du péché et de la désobéissance, parce qu'ils ont rompu la relation d'alliance, ils sont expulsés du jardin et de l'espace sacré qu'il était censé garder. Et maintenant Dieu place deux chérubins, deux êtres angéliques, à l'entrée et pour la garder. Je veux que vous fassiez attention à ces deux choses sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Le fait qu'il y ait deux êtres angéliques gardant l'entrée du jardin, et le fait que le récit de la création met un point d'honneur à l'identifier comme le lieu à l'est du jardin d'Éden, la notion directionnelle selon laquelle il se trouve à l'est. C'est donc la complication qui se pose. Mais le verset 15, encore une fois, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Le verset 15 est souvent considéré comme une sorte d'étape initiale de l'évangile ou de l'évangile dans l'actualité. Mais à tout le moins, les versets entre 15 et 16, mais surtout le verset 15, semblent indiquer que Dieu a prévu une solution à la complication qui est maintenant survenue. Et le verset 15 dit, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et la sienne. Il te frappera la tête et tu lui frapperas le talon. » Là encore, on ne dit rien de plus, sinon que c'est le début d'un conflit qui finira par trouver une solution. Bien que le récit à ce stade ne nous dise pas exactement à quoi cela ressemblera. Mais le reste de la Bible, à mon avis, le reste de la Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, raconte comment Dieu va restaurer son intention originelle pour l'humanité et pour toute sa création. C'est-à-dire la création par Dieu d'hommes et de femmes dans une relation d'alliance avec lui dans le pays que Dieu a gracieusement pourvu pour son peuple, et avec Dieu habitant au milieu d'eux. Et l'humanité fonctionne comme porteuse de l'image de Dieu, représentant de Dieu chargé de répandre le règne de Dieu et sa gloire dans toute la création. Et le reste de l'Ancien et du Nouveau Testament racontera comment cette complication qui a été introduite au chapitre 3, comment cette complication est résolue. Comment Dieu restaurera-t-il son intention originelle pour l'humanité? Cela nous amène donc à la fin du décor et à la complication qui a été introduite. Maintenant, ce que je veux faire, encore une fois, c'est sauter des pans assez larges de matériel, en particulier dans l'Ancien Testament. Et encore une fois, je n'aborderai que les thèmes majeurs, les textes majeurs et les mouvements majeurs dans l'histoire de la réalisation des desseins de Dieu pour restaurer son intention originale pour l'humanité et la création telle qu'articulée dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Et je veux sauter jusqu'au chapitre 12 de Genèse, où l'histoire d'Israël devient le principal moyen de Dieu pour établir ou restaurer l'intention de Dieu pour toute la création. Encore une fois, Genèse 1 et 2 se situent en quelque sorte au niveau macro de la relation de Dieu avec toute la création. Désormais, par un effet de rétrécissement, Dieu se concentrera désormais sur une personne, mais aussi sur une nation, comme moyen par lequel Dieu établira son intention de restaurer la création à sa fonction originale. Encore une fois, avec le peuple de Dieu vivant dans le pays, le dos de la terre de Dieu qu'il leur a donné, avec Dieu habitant au milieu d'eux, et le peuple de Dieu répandant la gloire de Dieu et le règne de Dieu dans toute la création. L'histoire commence alors dans Genèse chapitre 12. Et Genèse 12 commence, « Maintenant, l'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai grand ton nom afin que tu sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Et en toi, toutes les familles ou toutes les nations de la terre seront bénies. » C'est donc le début de l'intention de Dieu de restaurer Genèse 1 et 2 et les conditions qui étaient vraies dans son intention originale pour la création. Maintenant, pourquoi je dis ça? Eh bien, remarquez comment, encore une fois, tous les thèmes dominants de Genèse 1, 2 et 3 réapparaissent dans la sélection et le choix de Dieu d'Abraham et de la nation d'Israël et dans l'histoire d'Israël comme moyen de résoudre le conflit et le dilemme introduit. Au chapitre 3 de la Genèse. Tout d'abord, remarquez la référence claire à Dieu donnant la terre à Israël ou à Dieu donnant la terre à Abraham. Ainsi, au verset 1, quand il est dit, « Va dans ton pays, dans ta parenté et dans la maison de ton père, ou va de ton pays et vers le pays que je te montrerai. » En d'autres termes, il s'agit de la première étape de la restauration de l'intention de Dieu de donner la terre au peuple décrite dans Genèse 1 et 2. Rappelez-vous que dans Genèse 1 et 2, Dieu a créé la terre comme un environnement convenable pour son peuple. C'était le dos gracieux qu'il faisait à son peuple comme un lieu de bénédiction, le lieu où Dieu habiterait avec son peuple. Mais Adam et Ève en furent exilés à cause du péché. Maintenant, Dieu choisit Abraham et le peuple d'Israël pour les ramener dans ce pays comme lieu de bénédiction de Dieu et lieu où Dieu habitera à nouveau avec son peuple. C'est la terre. La terre est le dos gracieux de Dieu à son peuple en accomplissement des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Ainsi, emmener Abraham dans le pays et dans la nation d'Israël qui naîtra de lui est le rétablissement des conditions de l'intention originelle de Dieu pour sa création et pour l'humanité dans Adam et Ève, son peuple dans les chapitres 1 et 2 de Genèse. Notez également le thème de l'Alliance. Dieu est clairement décrit dans ce chapitre et dans les chapitres suivants de la Genèse comme un suzerain, comme le dirigeant de la création, qui va désormais choisir, élire et appeler Abraham et choisir de le bénir. Remarquez également le langage de la bénédiction et de la malédiction au chapitre 12, versets 2 et 3. Mais dans les sections suivantes de l'histoire d'Abraham, il est clair que Dieu entre dans une relation avec Abraham. Ainsi, nous voyons ici le thème de l'Alliance comme la façon dont Dieu entrera dans une relation avec son peuple et le bénira, déjà trouvé dans Genèse 1 et 2, devient maintenant la manière dominante par laquelle Dieu entrera dans une relation avec son peuple, le restaurera dans le pays. Et bénissez-les comme c'était son intention initiale pour la création dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Ainsi, par exemple, Dieu entre alors dans une relation d'alliance avec Abraham, mais aussi avec le reste de sa progéniture. Remarquez les chapitres entre 15 et 18, qui sont clairement le chapitre 15. Tout le chapitre 15 relate clairement une cérémonie d'alliance au cours de laquelle Dieu entre dans une relation d'alliance avec Abraham. Et remarquez comment se termine le verset 18. Il est dit, « Ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abram, disant, « À vos descendants, je donne ce pays. » Remarquez le lien entre la terre, le dos de la terre et l'alliance que Dieu conclut avec Abraham et avec ses descendants également. De plus, l'intention, remarquez l'intention de bénir Abraham, clairement au chapitre 12, mais répétée tout au long du récit d'Abraham. L'intention de bénir Abraham est clairement un renversement de la malédiction qui se produit dans le chapitre 3 de Genèse. En raison du péché d'Adam et d'Ève, la fin du chapitre 3 se termine par la malédiction de Dieu. Le serpent se termine par Dieu maudissant la création. Et maintenant, pour inverser cela, Abraham se voit promettre la bénédiction et le retour au pays, un lieu de bénédiction, encore une fois, en accomplissement de l'intention de Dieu pour son peuple dans les chapitres 1 et 2 de Genèse. Notez également le thème du peuple de Dieu. Choisissant Abraham et entrant dans une relation d'alliance avec lui et finalement que d'Abraham naîtra un peuple, une nation, par qui Dieu, ou avec qui Dieu entrera dans une relation d'alliance. Nous avons déjà mentionné que cette alliance que Dieu a établie avec Abraham s'applique également à ses descendants. Mais d'Abraham naîtra ce peuple qui sera le peuple de Dieu et Dieu sera leur Dieu de sorte qu'Israël sera maintenant le moyen de Dieu pour restaurer son intention originale de création de Genèse 1 et 2. Ainsi, ce qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à faire à cause du péché et les a exilés du pays, Dieu a maintenant l'intention de ramener Israël dans le pays comme lieu de bénédiction, pour leur donner du repos dans le pays afin qu'il entre dans une relation d'alliance afin qu'en fin de compte, la gloire de Dieu et son règne soient établis sur toute la terre. Ainsi, Israël a maintenant l'intention de Dieu de restaurer le dessein originel de Dieu pour la création à partir des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Remarquez également l'accent mis sur la postérité et les descendants d'Abraham, ce qui donne à maintes reprises cette image dans la Genèse selon laquelle la postérité d'Abraham doit finalement être plus nombreux que les étoiles du ciel ou les sables de la mer. Dieu utilise différentes métaphores, mais plusieurs fois il dit à Abraham que cette descendance, qu'à la fin de... Souvenez-vous même au chapitre 12, il lui a dit qu'une grande nation viendrait de lui. Au chapitre 15, il dit que cette alliance avec Abraham était telle que ses descendants posséderaient le pays. À maintes reprises, Dieu promet à Abraham que sa descendance et sa postérité seront plus nombreuses que les étoiles du ciel ou le sable de la mer. Remarquez le chapitre 22 et les versets 17 à 18. À partir du verset 17, Genèse 22, Dieu parle à Abraham, « Je te bénirai en effet et je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de leurs ennemis et par ta postérité les nations de la terre obtiendront la bénédiction parce que tu as obéi à ma voix. » Maintenant, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que cette mention des nombreux descendants issus d'Abraham est très probablement destinée à être le reflet du mandat donné à Adam et Ève dans le chapitre 1 de Genèse. Ou rappelez-vous, là où vous vous souvenez, Dieu dit à Adam et Ève, « Tu dois être féconde, te multiplier, remplir la terre entière et la soumettre. » Or, on dit à Abraham qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable du bord de la mer. Je pense que c'est l'accomplissement de l'intention originale de Dieu pour Adam et Ève de produire une progéniture porteuse d'image qui sera féconde et se multipliera et finira par remplir la terre entière. Ainsi, ce mandat commence maintenant à s'accomplir avec le choix de Dieu d'Abraham qui produira une descendance nombreuse, qui sera féconde et se multipliera, qui possédera la terre, la reprendra en possession, sera restituée à la terre, le dos gracieux de la provision de Dieu, le lieu de bénédiction qu'il voulait qu'Adam et Ève vivent avec Dieu vivant au milieu d'eux et Adam et Ève représentant le règne de Dieu et répandant sa gloire dans toute la création. Ainsi, Abraham est alors considéré comme la première étape ou les premières étapes de la restauration par Dieu de son intention originelle pour la création et pour l'humanité. N'oubliez pas que Dieu ne se contente pas de restaurer son peuple et de le sauver, même si c'est peut-être l'élément le plus important, mais qu'à terme, Dieu doit restaurer toute la création. Mais Abraham est la première étape pour que Dieu rétablisse les conditions de Genèse 1 et 2 qui ont été ruinées par le péché et ruinées par la chute dans Genèse chapitre 3. Et encore une fois, c'est que Dieu créera et choisira un peuple, il sera leur Dieu. Et ils seront son peuple dans une relation d'alliance avec eux, il leur donnera gracieusement le pays comme lieu de bénédiction, comme lieu de sa présence, et ils répandront sa domination et sa gloire en tant que porteurs de son image, ils le feront. Répandez son règne et sa gloire en tant que ses représentants dans toute la création et remplissez la terre de la gloire de Dieu et de son règne souverain. Encore une fois, ce n'est qu'une étape majeure de l'histoire et la façon dont l'histoire commence à se dérouler, comment l'histoire commence à se développer. Et comme je l'ai dit, je saute de larges pans de sujets. Si vous revenez en arrière et regardez le récit du déluge dans Genèse 6 à 9 a toutes sortes de résonances avec les chapitres 1 et 2 de Genèse. Dieu réaffirme son intention de restaurer la création, de restaurer l'humanité, bien que maintenant le chapitre 12 de Genèse soit plus explicite. Spécifique dans la façon dont Dieu commence à faire cela. Permettez-moi également de dire que je ne veux pas nécessairement suggérer que chaque détail de l'Ancien Nouveau Testament peut également être forcé ou intégré dans ce scénario. Mais encore une fois, mon intention principale est de retracer les fils dominants de l'histoire biblique de la relation rédemptrice de Dieu avec son peuple, de l'intention de Dieu de restaurer son intention originale qui se reflète dans son acte créateur initial en tant que créateur souverain de l'univers avec son peuple. Comme point culminant, comment Dieu agit maintenant dans l'histoire pour restaurer cela à son intention originale des chapitres 1 et 2 de Genèse. Très bien, le prochain point d'arrêt est la relation de Dieu avec son peuple à travers Moïse et l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse. L'histoire commence dans l'Exode. Encore une fois, nous avons sauté beaucoup de choses, mais l'étape suivante de l'histoire commence dans le livre de l'Exode où Dieu appelle Moïse pour sauver son peuple du pays d'Égypte et pour l'emmener de nouveau dans le pays que Dieu a promis à Abraham. Et cela, nous l'avons dit, faisait partie de l'intention de Dieu de restaurer son intention pour que l'humanité vive dans ce pays en tant que dos gracieux de Dieu des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Ainsi, l'histoire d'Abraham continue avec l'alliance que Dieu conclut à travers Moïse avec le peuple de Israël, son sauvetage d'Égypte et son intention de les restaurer dans le pays. Maintenant, c'est très important. Nous verrons comment cela commence à fonctionner dans le reste de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Israël, la nation d'Israël donc, nous l'avons déjà vu dans Genèse chapitre 12, mais à travers l'alliance que Dieu établit finalement avec Abraham, la nation d'Israël va être le moyen par lequel Dieu restaurera son intention pour toute la création. Et pour son peuple des chapitres 1 et 2 de Genèse. Donc, ce que je veux souligner, c'est que j'espère que beaucoup d'entre vous qui écoutent ceci n'auront pas besoin de se le rappeler, mais pour certains d'entre vous, vous pourriez le faire, que ce n'est pas simplement une nouvelle tournure dans l'histoire ou une nouvelle phase dans la relation de Dieu avec son peuple. Ce que Dieu va faire avec la nation d'Israël à travers Moïse est intégralement et inextricablement lié au récit de la création dans les chapitres 1 et 3 de Genèse. Encore une fois, Israël, l'élection d'Israël comme peuple de Dieu doit être considérée comme le moyen par lequel Dieu restaurera son intention de création de Genèse 1 et 2. Rappelez-vous, Adam et Ève ont échoué. Ils ont péché et ont donc été exilés du jardin, de la terre, le lieu de bénédiction, le lieu où Dieu résidait avec son peuple, l'espace sacré. Et maintenant, Israël est appelé comme une nation qui, encore une fois, Dieu a l'intention de les sauver d'Égypte et de les amener dans le pays où ils seront désormais le moyen de Dieu pour accomplir l'intention originale de Dieu pour la création de Genèse 1 et 2. Et ainsi, la mosaïque, l'alliance et le dos de la loi sont en réalité le moyen par lequel Dieu tiendra et accomplira la promesse qu'il a faite à Abraham. Encore une fois, à travers Abraham, il a promis une grande nation. Il va les amener au pays. Or, l'alliance mosaïque est la manière dont cela se produira. L'alliance que Dieu a conclue avec Moïse en donnant la loi est en quelque sorte le moyen juridique et la manière dont l'alliance conclue avec Abraham sera désormais appliquée et mise en œuvre. Donc, ce que je veux faire ensuite, c'est examiner un peu plus en détail l'histoire d'Israël et comment elle accomplit et continue non seulement l'histoire et l'alliance conclue avec Abraham, mais remonte jusqu'à la création, comment l'histoire d'Israël est l'ultime, n'est pas l'ultime, mais est l'accomplissement et le moyen permettant à Dieu de garder et d'accomplir son intention originale pour Adam et Ève et pour toute la création dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. C'était Dave Messieurson, conférence numéro 1 du scénario de la Bible.